Bonjour, je suis avec Alex Alis, dessinateur, co-scénariste, créateur de nombreuses couvertures de bandes dessinées et on peut dire dorénavant créateur à part entière d'une BD que tu as gérée intégralement, que ce soit en gérant, pour ainsi dire, le scénario, le dessin et la couleur.
Oui, tout à fait, c'est Le Château des Étoiles aux éditions Rue de Sèvres.
Alors, petite particularité de cette BD, en fait, elle sort en prépublication à travers trois faux journaux d'époque, où on aura donc l'histoire en trois parties. Le premier tome sortira lui-même au mois de septembre aux éditions Rue de Sèvres, donc édition nouvellement créée, et tu comptes reproduire le même schéma pour l'année prochaine, vu que ce seront, si j'ai bien compris, des histoires complètes en deux volumes.
Oui, donc au total 6 journaux, 3 cette année, 3 l'an prochain, ou 2 albums, et donc le format est au choix du lecteur.
D'accord. Alors au niveau de l'histoire, on est entre hommage à Jules Verne, hommage à Hayao Miyazaki, hommage au Bretzel, je pense que les gens comprendront quand ils liront la BD, quelque part entre le début d'une uchronie potentielle, hommage au steampunk. Alors c'est vrai qu'on voit au premier abord, on se dit le côté punk, ça se voit tout de suite, mais alors le côté steam, pourquoi cette passion ?
Punk ? oui, je sais pas, c'est du bretzel punk.
Ah, pas mal, je crois que ça a jamais été fait. Non, plus clairement, on sent qu'il y a une... chez toi, il y a... J'irais plus que le côté steampunk, c'est le côté conquête des étoiles. Et j'imagine que pour toi, c'est pas anodin de l'avoir passé en plein milieu du 19e siècle, et ce, avant la guerre franco-allemande dès 1870, en mettant en scène un personnage flamboyant, n'ayant pas peur des mots, Louis II de Bavière, que tu esquisses un peu dans ce premier journal.
Oui, effectivement, vous venez de citer plein d'influences. Tout ça est vrai, j'assume. J'ai un petit peu du mal à en parler en termes de genre, parce que quand je travaille, j'essaye d'aller à la source, en fait. Pas de me dire, je vais faire un twist sur tel ou tel genre et faire du steam opéra, ce qui est en fait ce que je vais faire. Mais j'essaye de ne pas voir les choses comme ça, j'essaye d'aller à la source, donc de prendre la réalité historique de l'époque, d'utiliser les personnages de l'époque et simplement de mettre une hypothèse de science-fiction qui aurait pu être. Voilà, qui est quelque chose que.
Qui aurait pu exister, tu parles de l'éther.
En fait, oui, j'essaie de me baser sur des théories de l'époque. Alors, il y a une théorie de l'éther, de toute façon, enfin, on est à peu près persuadé que l'espace est plein d'éther depuis les Grecs et jusqu'à Einstein, je caricature, mais en gros, c'est ça. Curieusement, c'est vrai que l'idée du voyage interplanétaire est assez peu présente. Il y en a plein, hein, et j'en ai lu plein, mais c'est pas ce qu'on a le plus retenu de la science-fiction de l'époque. Mais en tout cas, voilà, j'essaye de travailler en me disant, ce récit aurait pu être crédible pour quelqu'un qui l'aurait lu à cette époque-là. C'est un peu ma contrainte créative. Donc effectivement, j'essaie de faire en sorte de partir du monde réel, d'utiliser les personnages et les théories scientifiques de l'époque et d'utiliser en fait toute cette poésie incroyable qu'on trouve dans les descriptions de l'espace de Camille Flammarion, qui est un grand vulgarisateur de l'astronomie de cette époque-là. Et finalement, cette espèce de souffle et de foi incroyable dans tout ce qu'on va... dans tout ce qu'on peut imaginer et tout ce qu'on imagine à l'époque qu'on va construire, la science triomphante mais ça ce sera pas l'objet des premières gazettes du château des étoiles, mais par la suite effectivement la vie sur d'autres mondes, les autres humanités. Oui, c'est comme ça qu'on appelait ça.
Ah, donc le clin d'œil à Vénus dans ce premier fascicule n'est pas anodin.
Stay tuned, comme on dit, outre-Atlantique. Donc effectivement, ce premier récit fonctionne en diptyque et il y aura une vraie fin. Mais c'est une fin qui ouvre un univers étonnant. Donc oui, moi ce qui me... j'aime les... Comment dire ? J'aime les débuts. J'aime quand on prend son temps au début d'une histoire. À condition qu'il y ait une belle promesse. Donc c'est tout l'objet de cette première gazette, qui est de faire une belle promesse et après de prendre le temps de faire les choses. Et tout ce plaisir de l'anticipation,
tu aimes bien prendre la main du lecteur et lui dire que ça va être une belle balade et elle risque de durer longtemps.
C'est ça, c'est tout à fait ça. Et j'ai cette passion des débuts où on commence et on se dit bon sang, on va aller loin ensemble, mais prenons le temps de d'installer les choses. Donc on commence sur Terre, mais on va pas y rester éternellement dans cette histoire.
D'accord, alors revenons un peu sur l'histoire, parce que finalement là on en parle, mais le pauvre lecteur qui nous écoute doit être en train de se dire oui bon bah ils sont bien sympas, mais ça parle de quoi? Alors si tu me permets, sans trop spoiler, ça raconte l'histoire d'une famille qui va se lancer dans une réalisation complètement folle, et j'allais dire, là il y a deux phrases gimmick, ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait, et au nom de sa majesté la conquête des étoiles commence. Alors est-ce que tu peux, j'allais dire en quelques phrases courtes, nous résumer finalement, donner envie au lecteur de te prendre la main pour t'accompagner sur un très très long chemin?
Oui, alors concernant les deux citations, la première est attribuée à Mark Twain, mais si un des auditeurs retrouve la source, voilà, parce que j'étais incapable de retrouver le bouquin d'où c'est censé venir. Mais elle est très belle, je trouve que c'est une très belle phrase et un peu à double sens par rapport à ce récit. Du coup, j'ai complètement oublié ta question.
Alors la question, est-ce que tu peux nous présenter, donne-nous le pitch, on veut savoir.
Le bon vieux pitch. Sur la série, ça raconte donc l'histoire de la conquête du système solaire par l'humanité entre 1869 et 1875.
Donc c'est une uchronie.
C'est une ucosmie, c'est nouveau.
C'est-à-dire... Dépêche-toi d'aller le déposer.
C'est-à-dire que non seulement effectivement on a une hypothèse qui va changer le cours de l'histoire, mais en fait mon idée, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est de valider une hypothèse de l'époque dont on sait aujourd'hui qu'elle est fausse, mais dont elle aurait en fait tout aussi...
Oui, c'est un peu le fameux calembour, Lavoisier a tort et Lucrèce a raison.
Voilà. Je ne connaissais pas celui-là, il est pas mal.
C'est une série d'excellents articles qui avait été fait par Joseph Alterac et Eric Henriet dans ses sommes sur l'Uchronie, l'histoire revisitée, les deux essais et l'Uchronie en 50 questions chez Klingsek. En fait, revenait sur des Uchronies. En fait, c'est la cosmologie même qui était différente. Tu tombais sur une terre plate où la civilisation s'était intégrée de part et d'autre des faces d'une même pièce. Une terre qui était une pièce de monnaie trouée. Donc le premier contact, c'était uniquement qu'on développait l'aviation pour aller voir ce qui se passait de l'autre côté du pôle, pour ainsi dire, où j'ai le souvenir d'une excellente nouvelle de Philippe-José Farmer, Faire voir, faire voile, où Christophe Colomb ne trouve pas l'Amérique. En fait, il arrive réellement au bout du monde connu et il tombe.
Alors comment on appelle ça?
Alors dans mes souvenirs, c'est Eric qui est physicien chimiste. Pour lui, c'est un peu des uchronies, je dirais pas cosmologiques, mais où la création même est différente.
Une ucosmie.
C'est magnifique. À l'unanimité, c'est validé. Donc on suit finalement une famille, un papa, une maman et un enfant. Et non, ceci n'est pas un message subliminal pour la manif pour tous. Il va y avoir une histoire tragique, de toute façon sinon l'histoire n'avancerait pas, et en fait il y a le début d'une aventure façon Jules Verne.
Encore une fois avec cette idée d'une découverte. Une découverte scientifique qui amène un voyage extraordinaire, donc c'est vraiment ce ton-là, et jusqu'à quelque chose qui était très important pour moi sur ce projet. Évidemment, je suis venu à cet univers par Jules Verne, très jeune. Et par rapport à ça, ce qui était très important pour moi, c'est de faire en sorte que ce récit soit, comme les récits de Jules Verne l'étaient pour moi, accessible à la fois pour un adulte comme moi et pour un enfant. C'est-à-dire que c'est pas une histoire qui est destinée exclusivement aux enfants. Par contre, c'était très important pour moi de garder cette porte d'entrée dans le récit. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'apprécie beaucoup dans les reprises contemporaines de ce type d'univers, comme Lake des Gentlemen Extraordinaires. Je trouve qu'il y a des épisodes incroyables, la bande dessinée d'Alan Moore et Kevin O'Neill. Mais pour... disons qu'ils vont emprunter cet univers-là, mais ils en font un truc référentiel pour adultes. Moi, je veux que le Château des Étoiles puisse être lu au premier degré par quelqu'un qui n'a aucune référence et qui rentre dans cet univers et qui n'a jamais rien lu qui se passe au 19e. Ou, voilà. Je ne suis pas dans le clin d'œil, je ne suis pas du tout dans le... je suis évidemment...
C'est pas dans le pastiche intellectuel, finalement.
Non, du tout. Je pense qu'il y a un plaisir de la lecture à ce niveau-là, de retrouver des personnages comme Bismarck ou Ludo de Bavière dans un rôle modifié parce que la tournure de l'histoire est différente. Mais pour moi, c'était hyper important de pouvoir faire lire ça à un lecteur de Tintin, en fait. Tintin fait vraiment partie de mes références sur cette série.
Alors, avant le mot de la fin, je te propose de parler un peu de technique. Concrètement, ça t'a pris combien de temps pour créer ça? Et j'allais dire, d'où est venue finalement l'idée de partir sur trois fascicules, puis une BD finalement qui sort normalement, et point de vue charge de travail, j'imagine que ça doit être assez énorme.
J'ai eu la chance de pouvoir passer pas mal de temps sur le développement de cet univers. J'y suis depuis 2007. Pas à temps plein, hein, je précise, mais l'illumination m'est venue 2008 en fait, alors que je travaillais sur Siegfried, qui était ma série précédente. Mais c'est bien, j'aime bien avoir beaucoup de temps pour la documentation, pour réfléchir à ce que je vais faire. Et donc j'y suis à temps plein depuis 2 ans. Je suis sur une technique donc j'aime bien. En fait, j'aurais aimé faire autrement, mais j'arrive pas à m'empêcher de tout écrire à l'avance. Et donc je suis sur le dessin en couleur directe depuis un peu plus d'un an. Couleur directe, c'est une technique qui demande encore plus de temps que, enfin, dans mon cas, que la bande dessinée traditionnelle. Donc tout est fait à l'aquarelle, et justement pour retrouver une espèce de côté plus doux et plus merveilleux dans le dessin, avec des ambiances plus subtiles qui, pour moi, alors que c'est en couleur, mais bon, c'est peut-être que moi, est plus dans l'évocation des illustrations de Ryu, ou voilà, des belles illustrations de Jules Verne telles que je les ai appréciées, justement, avec des plans qui vont se fondre, ça laisse un mystère, il y a une espèce de d'atmosphère très présente, et ça, j'avais besoin de cette subtilité là pour ce récit. Et en plus, ce petit côté, cette petite douceur, c'est vrai, va tirer aussi dans un certain sens vers l'univers, vers plus de merveilleux. Sur une autre technique, ça aurait été plus réaliste, peut-être trop réaliste. Là, il y a un petit côté enfantin qui vient de cette technique.
D'accord. Alors, je pense malheureusement qu'il va être temps de se quitter, Votre Majesté. Le mot de la fin t'appartient, fais-toi plaisir.
Oula.
It's a trap.
C'est ça. Que suis-je venu faire dans cette étoile noire? Non, mais...
Il n'y a pas de succès pour en plus.
Mais c'est ça. Non, c'est pas... Voilà, c'est le début du récit. Peut-être que ce qui était important pour moi aussi, par rapport justement au thème de l'Uchronie ou du steampunk, c'est qu'il ne s'agit pas de poser un univers et de dire maintenant je vais vous raconter une histoire dans cet univers. L'idée, c'est que l'histoire crée l'univers. et l'univers crée l'histoire en fait. Le par rapport à pas mal du chronique que j'ai pu voir, je suis pas spécialiste, hein, comme tu as pu le voir, mais où la déviation a eu lieu dans le passé et on suit les conséquences, où on suit une histoire qui se passe dans un monde différent. Là, on est au moment de la rupture, en fait.
Tu es en train de créer ton point de divergence.
C'est ça. Et c'est le fait de raconter cette histoire-là qui va créer l'univers, ce qui fait aussi, pour moi, qu'on va pouvoir rentrer dedans plus facilement. Et par contre, j'espère effectivement le mener très loin à partir de là. Mais bon, voilà, l'histoire dira.
Merci à toi. C'est une jolie formule, ça. L'histoire le dira. Au revoir et encore merci.
Avec plaisir.